dans une série d'émissions consacrées à la réinvention de la Grèce antique au XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Alors que quelques-unes et quelques-uns d'entre vous partiront peut-être pour la Grèce cet été, nous vous proposons une série d'émissions qui tentera d'expliquer comment le XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, l'Europe a projeté sur ce pays, qui était alors une partie de l'Empire ottoman, sa vision de la Grèce antique. Demain, le documentaire signé Yorgos Archimandritis et Séverine Kassar nous expliquera comment, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre civile qui avait dévasté le pays, se sont inventés deux festivals artistiques majeurs à Épidaure et à Athènes, réunis aujourd'hui sous le nom d'Hellenico Festival. Mercredi, nous nous demanderons ce que les révolutionnaires français, influencés par Voltaire, ont vu dans les Grecs de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Et aujourd'hui, eh bien, en duplex depuis la radio nationale grecque ERT, que nous remercions d'avoir accueilli dans ses studios nos deux invités, nous avons le plaisir, avec Yorgos Archimandritis, de recevoir Amélie Perrier, directrice des études antiques et byzantines à l'École française d'Athènes, et Tassos Anastasiadis, qui s'occupe en particulier du XXe siècle, justement, pour ce qui concerne l'histoire grecque en relation avec l'histoire française. On en parlera avec lui en particulier. On parlera de ce front d'Orient qui compte beaucoup à ses yeux. Avec eux, nous allons tenter de comprendre quel regard ceux qui fondèrent et développèrent cette école française d'archéologie ont porté sur la Grèce antique, mais aussi contemporaine, et comment l'archéologie a été un instrument de puissance diplomatique et culturelle pour les écoles européennes qui exhumaient, justement, le passé de la Grèce. Bonjour Yorgos Archimandritis.
Bonjour Emmanuel.
Et merci d'être avec nous pour nous accompagner dans cette histoire en relation entre la Grèce antique, la Grèce des 18e, 19e et 20e siècles et la Grèce contemporaine. Et nous sommes en relation avec donc deux chercheurs et historiens, à savoir Amélie Perrier et Tassos Anastasiadis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex depuis les studios de la radio ERT à Athènes et vous avez donc la possibilité de représenter cette école française d'Athènes dont vous êtes tous les deux membres justement dans cette émission. On va essayer de comprendre quel rapport donc et pourquoi d'abord on a créé ces écoles archéologiques étrangères sur le sol grec au 19e siècle et quel rapport justement il y avait entre une relation purement diplomatique, une relation de puissance, une relation de savoir et de connaissance, tout cela étant très savamment entremêlé, Amélie Perrier.
Oui, bonjour. Alors, l'école française d'Athènes a été créée en 1846 dans un contexte assez particulier, puisque on se situe après la guerre d'indépendance grecque, qui a suscité, qui a enflammé l'Europe, qui a suscité un philhellénisme très puissant. L'école française d'Athènes est donc le premier établissement étranger créé sur le sol grec à des fins qui, au début, sont définies de la façon suivante. Il s'agit d'une école de perfectionnement pour l'étude de la langue, de l'histoire et des antiquités grecques à Athènes.
Oui, alors c'est donc une école qui va à la fois se charger d'envoyer sur place, donc comme une sorte de, c'est une école de perfectionnement, une sorte de formation des normaliens, des jeunes normaliens qui vont se perfectionner en Grèce, mais aussi une école d'enseignement, puisqu'on va coupler donc l'envoi de ces jeunes normaliens avec la possibilité pour eux, ou l'obligation pour eux, de donner des cours de français, du moins dans les premières années de cette école française d'Athènes, donc née le 11 septembre 1846, Amélie Perrier, c'est ça?
Oui, cette école est avant tout réservée aux normaliens et agrégés, ce qui réduit considérablement le nombre de candidats potentiels déjà à l'époque. Et effectivement, leurs missions ne sont pas tout à fait claires au début. Ils viennent découvrir la Grèce, ils viennent parcourir la Grèce, les auteurs anciens à la main. Et effectivement, une de leurs missions est d'offrir des cours publics gratuits de français à la population grecque.
C'est l'article 4 du décret qui institue cette école, donc du 11 septembre 46. Donc l'école pourra ouvrir, avec l'autorisation de Sa Majesté le Roi de Grèce, des cours publics et gratuits de langue et de littérature française et latine, Amélie Perrier.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une des missions principales de ces jeunes agrégés normaliens qui arrivent en Grèce, qui ne connaissent pas la Grèce sinon par les textes, et dont les premières générations d'Athéniens, dans une période où l'archéologie ne s'est pas encore constituée comme science, mais est en train de se structurer, ces premières générations d'Athéniens... ils le disent dans leur correspondance, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent à cheval, ils bêchent le jardin, ils se laissent pousser des moustaches d'un décimètre, ils dansent au bal, ils font des visites, voilà. Et alors,
il faut préciser à nos auditeurs que les Athéniens en question, ce ne sont pas les habitants d'Athènes, c'est comme cela que l'on surnomme dans le milieu académique les élèves de l'école française d'archéologie d'Athènes. Ce sont les Athéniens, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc, la première génération d'Athéniens dont vous parlez, ce ne sont pas les habitants de la ville, mais ce sont ces premiers élèves de cette école, c'est cela ?
Oui, oui. On appelle encore aujourd'hui les membres et les anciens membres de l'école d'Athènes les Athéniens. Et ces cours publics gratuits de français qui sont dispensés par ces jeunes Athéniens, donc, participent aussi d'une, on pourrait employer le terme de propagande, même si c'est peut-être un petit peu fort, de la France en Grèce. En tout cas, cela relève d'une volonté politique très claire d'affirmer la présence de la France en Grèce.
Parce qu'il faut tout de même, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas parfaitement l'histoire de la Grèce au XIXe siècle, expliquer que donc l'indépendance est acquise en 1830, qu'il y a donc les puissances européennes dans le cadre du post-congrès de Vienne, d'une certaine façon, cette façon de nommer des souverains sur des trônes étrangers, nomme un souverain bavarois qui va s'installer, Othon de Bavière, qui va s'installer sur le trône de Grèce. Ça n'est donc pas un Grec qui est jugé comme étant suffisamment important pour pouvoir être nommé sur ce trône de Grèce. Donc il y a une cour grecque qui va s'installer, une cour bavaroise qui va s'installer autour de ce roi. Mais ceux qui tirent les ficelles, pourrait-on dire, de cette Grèce nouvellement indépendante de l'Empire ottoman, ce sont d'un côté les Français, de l'autre côté les Britanniques, et le troisième parti, ce sont les Russes en l'occurrence. Et effectivement, il y a un jeu de puissance, un jeu d'influence dans cette Grèce du milieu du 19e siècle entre ces trois puissances, Amélie Perrier.
Oui, le philhellénisme européen qui s'est développé à l'occasion de la guerre d'indépendance relève de différentes causes. Et un des enjeux majeurs pour ces trois puissances, c'est effectivement, enfin, ils souhaitent clairement se partager les dépouilles de l'Empire ottoman. Et donc, ils prennent le parti de la Grèce. Et l'archéologie, dans cette perspective, les sciences jouent un rôle particulier, puisque pendant la guerre d'indépendance est envoyé donc une armée, un corps expéditionnaire sous la direction du général Maison. Au sein de cette armée, il y a une section des sciences, de l'architecture, de l'archéologie, un peu sur le modèle de ce qui s'est passé
en Égypte,
lors de l'expédition d'Égypte, tout à fait. Et donc ce corps, qui est constitué de 116 civils, est chargé d'explorer la Grèce, d'en faire la description. Et c'est ainsi d'ailleurs que les Français découvrent le temple de Zeus à Olympie.
Et alors, il y a tout de même quelque chose de très intéressant dans cette première période, pourrait-on dire, de prise de contact, pourrait-on dire, entre les historiens, philologues et archéologues naissants, donc dans cette Grèce qui est elle-même tout nouvellement indépendante, c'est que ils vont découvrir un pays qui n'a pas grand-chose à voir avec le pays dont il rêvait en tant que spécialiste de la langue antique en particulier ou de la religion antique. Ils vont découvrir un pays qui a été pendant plus de 4 siècles sous l'Empire ottoman. Et il va naître à ce moment-là une sorte de malentendu. On voit qu'il y a parmi les premières générations de cette école française d'Athènes, de ceux qui fréquentent cette école française d'archéologie et de philologie à Athènes, eh bien, il y a ceux qui vont défendre une Grèce d'aujourd'hui, une Grèce qui leur est contemporaine, qui a été hardie dans la façon de se rebeller contre l'Empire ottoman, et puis il y a ceux qui vont considérer que cette Grèce est bien abattardie, comme le disent certains, avec une langue qui n'a, selon eux, pas grand-chose à voir avec la belle langue antique qu'ils imaginaient à l'époque. Et donc, il y a deux courants qui vont s'inscrire profondément dans le rapport de la France en particulier avec cette Grèce tout au long du 19e siècle, Amélie Perrier.
Oui, alors il est certain que les jeunes membres qui viennent sont portés par une sorte d'idéal romantique, un idéal rêvé de la Grèce, une Grèce qu'ils connaissent uniquement par les textes. Et ils viennent. Alors Sainte-Beuve dit qu'ils viennent respirer le vrai parfum de la Grèce. Mm-hmm. On se demande ce que ça veut bien dire. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que pour eux, comme le dit Radé, qui est le premier historien de l'école, qui a écrit un livre en 1901 sur les débuts de l'école, il dit que pour eux, séjourner en Grèce, c'est revivre dans l'Antiquité. Mm-hmm. Pour certains, ça constitue à la fois une déception parce que ils ne trouvent pas ce qu'ils attendaient.
Il n'y a pas Socrate à tous les coins de rue, c'est ce qu'ils attendaient.
C'est certain.
Voilà. Ou Aristote.
Et pour d'autres, ça met un voile en fait sur leur interprétation aussi de ce qu'ils voient de la Grèce moderne.
C'est le cas de celui sur lequel vous avez travaillé, par exemple Léon Heusé, qui arrive dans les années 1855-1856 à Athènes, qui rentre à l'école à 25 ans, qui est un très brillant élève sur lequel vous avez travaillé, et qui, en fait, dites-vous, a mélangé dans sa vision, il va travailler sur l'Acarnanie et le mont Olympe, il va travailler sur la frontière entre le monde grec antique et le monde barbare antique, et il va mélanger cette excellente connaissance des textes qu'il peut avoir avec ce qu'il va voir, et cela va produire une sorte de mauvaise interprétation, selon vous, Amélie Perrier, de ce qu'il verra. Ça va troubler son regard, pourrait-on dire.
Oui, ça trouble son regard. Ça reste un scientifique excellent dès son jeune âge. Et effectivement, il est un peu victime de son érudition, puisque quand il s'engage dans ces contrées inexplorées et très mal connues de la Grèce, qui est la Grèce du Nord-Ouest, qui est un pays de montagne difficile d'accès, eh bien, il parcourt ces régions avec les textes de Thucydide en tête, de Polybe, d'Homère, etc. Et il voit, ou il cherche même à voir dans les populations qu'il rencontre, les traces de ce qu'ont dit les anciens sur les populations antiques de ces régions. Et donc il y a une sorte de mélange des genres entre ethnographes, archéologues qui montre, il essaye de montrer que finalement la Grèce a très peu changé, mmh, et que il présente ces régions comme une sorte de musée en fait.
C'est ça.
De conservatoire de la Grèce antique.
Il cherche une sorte de peuple primitif qu'il va d'ailleurs trouver. Il va voir les cleftes du Valtos et il y voit les Amphiloquiens par exemple. Et il dit qu'en fait il trouve ce qu'il voit. Ils ont l'humeur belliqueuse comme le décrit Thucydide ou encore Polybe. Et ils ils ont l'horreur naturelle pour la société, donc ils sont déjà des sortes de semi-barbares, pourrait-on dire, comme les voyaient d'ailleurs ces populations-là, comme elles étaient vues par les Athéniens du 5e ou du 4e siècle, Amélie Perrier.
Oui, et alors là, il y a une confusion aussi, c'est que les populations qu'ils rencontrent ne sont pas forcément des populations grecques.
Bien sûr.
Mais ce sont des populations albanaises pour une grande partie, et donc de toute façon, ce raisonnement ne peut pas s'appliquer à ce qu'ils voient. Mais il y a une sorte d'enthousiasme, d'entraînement à voir ce que voyaient les anciens et à offrir un tableau de la Grèce qui reste idéal puisque ancré dans les sources anciennes, même si là, il décrit effectivement une Grèce qui n'est pas la Grèce des cités, mais qui est une Grèce en marge et qui a été définie par les anciens eux-mêmes, notamment par Polybe, comme une Grèce effectivement semi-barbare. Bon, derrière tout cela, il y avait un intérêt politique aussi de Polybe. Mais à décrire ces populations de cette façon.
On peut dire tout de même que les gens qui partent pour cette école française d'Athènes, disons entre 1846, sa date de création, et les années 1870 ou 80, sont des gens qui vont autant en Grèce pour découvrir la Grèce que pour se découvrir soi-même. Il y a une partie de ceux qui partent pour une sorte de voyage initiatique, et puis il y a une autre partie qui montre un intérêt certain pour la Grèce qui est en train de se développer. Alors certains disent, comme Edmond Abou, que c'est une Grèce moderne qui est absolument insupportable. Il écrit ça en 1854 dans la Grèce contemporaine. Et puis d'autres, comme le directeur de l'école française en 1869, qui écrit la Grèce de 1869, font une sorte de plaidoyer, enfin plaide pour cette Grèce moderne qui, selon eux, est bien plus intéressante que ce que veulent en dire les antiquaires qui la détestent et qui la stigmatisent, Amélie Perrier.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que effectivement, à ce moment-là, dans la première période de l'école, la politique fait partie de justement ce voyage initiatique des jeunes membres. Et Edmond Abou constitue un cas un petit peu particulier parce que il s'ennuie un petit peu en Grèce. Alors il fait très peu d'archéologie, voire pas du tout, mais il participe à de nombreuses soirées, il fréquente le beau monde et il écrit plusieurs ouvrages, notamment deux ouvrages qui ont alimenté en fait un courant peu favorable à l'État grec, au jeune État grec. Il s'agit en 1855 de la Grèce contemporaine et en 1856 du Roi des montagnes qui présente aussi la résistance grecque sous un jour assez défavorable.
Oui, si je peux ajouter quelque chose.
Oui, Tassos Anastasiadis, allez-y.
Alors, en fait, ces gens-là s'inscrivent dans une logique et dans une continuité par rapport au XVIIIe siècle, la logique du grand tour. Donc, en fait, ils arrivaient au XVIIIe siècle avec effectivement les textes antiques, découvrant la Grèce antique mais aussi moderne, et écrivaient aussi leurs propres textes, créant ainsi en fait une lignée, un ordre de livres qui s'ajoutent les uns aux autres. Et au XIXe siècle, les nouveaux membres de l'école font un peu pareil, s'inscrivant dans cette logique. Et donc, vous avez mentionné Edmond Abou, en fait, Émile Bournouf, qui est par ailleurs le plus, je dirais, le témoin, probablement le plus juste, en fait, sur la situation grecque. Il y a aussi Gaston Deschamps, Victor Bérard, en fait, ils sont nombreux. Et effectivement, ils jouent sur les deux. Ils découvrent l'Antiquité, ils parlent de l'Antiquité, mais ils découvrent aussi la Grèce moderne. Ils parlent d'elle. Et souvent, d'ailleurs, certains d'entre eux vont utiliser ce qu'ils observent, effectivement, dans la Grèce moderne, même pour comprendre l'Antiquité, c'est-à-dire l'autre chose se passe aussi. On va utiliser en fait ce qu'on observe comme des anthropologues pour parler en fait de l'Antiquité.
Et une question de Yorgos Archimandritis.
C'est pas tellement une question, ou ça va devenir une question. je vais vous citer ou reciter un poème de Sully Prudhomme, les 10 premiers vers d'un sonnet qu'il avait écrit.
Donc prix Nobel de littérature, il faut le rappeler, parce qu'on ne s'en souvient plus, mais il a été prix Nobel de littérature, je crois, en 1901, en l'occurrence, Sully Prudhomme.
Alors, il a écrit, donc, s'adressant à la Grèce, « Tes chefs-d'œuvre ont formé nos cœurs, nos yeux, nos fronts. Des échos de ta voix, nos écoles sont pleines. Nos arts sont tous aux races illustres des Hélènes, de ton pur idéal héritier ou larron. L'air libre des hauteurs, l'air que nous aspirons, Tes poètes l'ont fait de leurs nobles haleines. Tes héros ont sauvé l'Europe dans tes plaines. Ils ont chassé le Perse à grands coups d'aviron. Tu restes à jamais, c'est ça qui est important, tu restes à jamais la nourrice sacrée de tous les peuples fiers dont l'âme chante et crée. La nourrice sacrée, est-ce vraiment ça pour l'école donc française d'Athènes, la Grèce à cette époque-là, est-ce une nourrice sacrée?
Amélie Perrier ou Tassos Anastasiadis, comme vous voulez.
Bah, là, le poème de Sully Prudhomme renvoie là encore à cet esprit romantique du 19e siècle, dont les membres étaient sans doute marqués, mais il faut voir également l'ensemble du contexte, c'est-à-dire que le contexte politique, le contexte diplomatique, et puis cette science archéologique qui est en train de se constituer.
Comment elle se constitue d'ailleurs ? C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on passe de la catégorie d'antiquaires, c'est-à-dire des gens qui ramassaient plus ou moins sur les sites des œuvres qui étaient exhumées par les gens du coin, et puis qui les revendaient, à quelque chose de plus en plus scientifique, pourrait-on dire, et qui permet justement à Sully Prudhomme peut-être de nourrir cette image de nourrice sacrée qu'il voit dans la Grèce antique.
Alors, en fait, Sully Prudhomme voit aussi bien la Grèce antique comme nourrice sacrée par rapport à cette image de l'Antiquité comme grec, comme un berceau de la civilisation occidentale, mais aussi, ça s'inscrit aussi dans le contexte de la fin du 10e moitié du 19e siècle, en fait, d'une slavophobie, en fait, et d'une nouvelle appréciation de l'Orient et la Grèce, en fait, comme frontière, en fait, de l'Europe face à l'Orient.
Ah oui.
Ce n'est pas par hasard ce qu'il mentionne par rapport aux Perses, donc, dans son poème. Maintenant, pour parler de l'évolution, on peut parler d'un double processus. Déjà, un processus qui va de l'individu vers l'institution. Donc, le 18e siècle, c'est un siècle où la Grèce est découverte de façon individuelle. Effectivement, les grands touristes, les gens qui sont sur le grand tour, qui, après avoir lu les classiques, découvrent d'abord l'Italie, puis en fait la Grèce. Et puis, au 19e siècle, on est plutôt dans la logique des institutions avec l'apparition des États nationaux et des États impériaux qui veulent, en fait, institutionnaliser des choses. Au sein de chaque siècle, il y a aussi une évolution qui va du nomadisme à la sédentarisation. Le 18e siècle, ça commence avec les grands touristes, donc les gens qui arrivent, qui font un tour pendant 15 jours, un mois, deux mois de collecte, effectivement, vont collectionner des antiquités, vont répartir, devenir les antiquaires dont Manuel a parlé, ou les collectionneurs. Puis vers la fin du 18e siècle, nous avons l'apparition des gens qui se sédentarisent, des gens en fait qui, après avoir fait probablement le grand tour, vont rester sur place. Très souvent, ce sont des gens qui vont assumer des postes diplomatiques ou consulaires. Il faut parler effectivement de Choiseul Gouffier, de Lord Elgin, en fait, ambassadeur aussi. En fait, donc ces gens-là, en fait, et puis plein d'autres moins connus, qui s'installent sur place et deviennent en fait les experts et les médiateurs pour les autres, en fait, et médiateurs de cette antiquité, parce que du coup ils sont sur place. Au 19e siècle, le même phénomène s'opère, mais cette fois-ci au niveau des institutions et des États. On démarre avec les grandes expéditions scientifiques, celle de Bonaparte en Égypte, celle en fait effectivement de Lamorée dont Amélie a parlé en Grèce, mais progressivement, avec l'école française d'Athènes étant la première en 1846, on voit une sédentarisation, donc l'installation d'institutions étatiques qui vont en fait mettre en place cette découverte de l'Antiquité avec des moyens qui sont des moyens beaucoup plus importants désormais.
J'ai cru comprendre, Amélie Perrier, en lisant que, en préparant cette émission, que les Allemands sont les premiers à avoir obtenu en 1874 l'exclusivité de fouilles en Grèce de la part du gouvernement et du royaume de Grèce, et c'était à Olympie, et ça n'est que plus tard que les Français obtiendront la même chose après pas mal d'années de bagarre, je crois une quinzaine d'années de bagarre, à la fin du 19e siècle, pour Delphes, dont vous êtes par ailleurs une spécialiste, Amélie Perrier.
Oui, alors, pour reprendre l'histoire du rapport entre les Français et les Allemands dans le domaine archéologique en Grèce, il faut le remonter peut-être déjà à 1846, la fondation de l'école d'Athènes. Parce que ce qu'on dit, c'est que l'école a été créée aussi, pas seulement, mais aussi en réaction à comment dire, le fait que la Prusse dirige l'Institut archéologique de Rome. Et donc, voilà, la France crée une institution en Grèce où elle a le monopole, puisque l'école, l'institut allemand n'est fondé qu'en 1874, donc plusieurs années après. Mais ce qu'il se passe, c'est que effectivement, ils demandent et ils obtiennent tout de suite la concession de du site d'Olympie pour exploiter, d'un point de vue scientifique, le site d'Olympie. Le site d'Olympie qui avait été découvert d'abord par par les Français lors de l'expédition de Morée. Et ils publient.
Donc on est bien dans la on est bien dans la concurrence là, en l'occurrence entre puissances.
Oui, tout à fait, dans une concurrence, une émulation. Certains parlent de rivalité, mais ça reste une concurrence cordiale. Ça entraîne aussi les Français. Enfin, cette concurrence est tout à fait bénéfique pour le développement des instituts et des missions en Grèce, puisque les Français créent une revue archéologique juste après la création d'une revue archéologique par les Allemands, que ils demandent effectivement la concession d'un site archéologique, Delphes, un site majeur dans l'Antiquité. Et là, les choses se compliquent un petit peu parce qu'ils demandent cette concession en 1881 et les négociations durent plus de 10 ans. Parce que la première convention est établie sur le modèle de celui d'Olympie, mais elle pose plusieurs problèmes parce que les Grecs avaient accordé aux Allemands la possibilité de rapporter en Allemagne un double des objets, enfin un objet quand il avait été trouvé en double sur le site, ce qui avait susciter la désapprobation violente de nombreux Grecs. Donc cette clause n'est pas accordée aux Français. Et puis le problème qui se pose à Delphes, c'est que le site est situé sous le village moderne de Delphes, qui s'appelle Castries.
Il faut donc déplacer le village moderne.
Voilà, tout à fait. Là, ça pose un gros problème d'expropriation et de transfert du village. Qui doit être pris en charge aussi financièrement par les Français. Et donc les négociations traînent. Et puis arrive au pouvoir en Grèce un certain Trikoupis qui
Trikoupis.
Voilà, dont les intérêts scientifiques sont très peu important, mais qui souhaite remettre les négociations sur le plan économique et politique, et donc il demande aux Français de dégréver les raisins de Corinthe pour faciliter donc le commerce.
La fameuse crise des raisins de Corinthe de la fin du 19e siècle, qui va d'ailleurs provoquer une catastrophe économique à certains moments pour la Grèce de la fin du 19e siècle. Alors, ce site de Delphes est un site intéressant. Je vous propose d'écouter un hymne delphique interprété par Nena Venetsanou, et on reviendra justement sur cette découverte de l'hymne delphique à la fin du 19e siècle et l'importance que ça a pu avoir un peu dans le monde entier.
Ite pitile scopum tam de Parnassian philochora dicorifum clitin hymnum catarchete Pierides en ifovolus petras ne thelikonidas melpete de pithium chryse ochetan ekaton evliran φίβων ετικτελάτο μακέρα παραλίμνε κλείτε. Χέρσιν γλαύκα ασελέας, θυγούς όζων εν αγωνίες, ερυθαλή.
L'immense Nena Venetianu. Pourquoi avez-vous choisi, Yorgos Archimandritis, cet hymne delphique pour notre discussion d'aujourd'hui, donc consacrée à l'invention des écoles archéologiques étrangères sur le sol de la Grèce au XIXe siècle?
Premièrement, parce qu'on est en plein dans le sujet, c'est l'école archéologique, donc l'école d'Athènes, qui a fait donc ses fouilles à Delphes et qui a découvert les hymnes delphiques, le premier hymne delphique en 1892, quelque chose comme ça. Et c'était Théodore Hénac qui était membre donc de l'école en 1890, qui a réussi à déchiffrer le système de la notation musicale de la Grèce antique. Et ça, c'était très intéressant parce que nous, ici en France, on est ces jours-ci, on baigne dans l'ambiance olympique, oui. Des Jeux olympiques.
C'était hier avec ou avant-hier avec cette manifestation qui se tenait à Paris pour pouvoir promouvoir les Jeux olympiques de 2024 à Paris.
Et justement, il faut pas oublier que les Jeux olympiques de la nouvelle ère sont nés à Paris en 1894.
À la Sorbonne.
Donc à la Sorbonne, exactement, au grand amphithéâtre. C'était le 16 juin 1894. Et Pierre de Coubertin, avec Dimitrios Vikelas, qui étaient les initiateurs de cette idée olympique, ils ont fait un congrès sportif à la Sorbonne. Et pour émouvoir donc les membres du congrès, ils ont présenté pour la première fois l'hymne delphique, qui était harmonisé par Gabriel Fauré, qui était un ami de Théodore Hénac.
Oui, c'est quand même très étrange ce mélange constant entre ce qu'on appelle dans ces années du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle, la propagande intellectuelle, c'est comme ça qu'on qualifie tout cela, Tassos Anastasiadis, les intérêts bien compris de ceux qui veulent créer des nouveaux Jeux Olympiques, la redécouverte archéologique sur un site comme celui de Delphes, etc., etc. Tout cela bien mélangé. Ce qui prouve bien que c'est une sorte de nœud difficilement inextricable, pourrait-on dire, pour pouvoir séparer ce qui est de l'ordre purement scientifique, de l'ordre politique, de l'ordre diplomatique.
Oui, c'est clair. De toute façon, pour revenir sur la question de tout à l'heure par rapport à Delphes, effectivement, on savait depuis les années 1820 qu'il y avait un site sous le village. Ce qui effectivement fait que on en prendra finalement la décision d'accorder, comme Amélie l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord le contexte de la compétition franco-allemande. Ce n'est pas par hasard que cela se passe après 1870.
Eh oui.
C'est aussi bien pour les Allemands et pour les Français. On s'engage dans une espèce de diplomatie culturelle et donc d'une compétition de diplomatie culturelle entre Français et Allemands. Jules Ferry, qui est le chargé d'affaires français en Grèce juste après, en fait, c'est au début des années 70, le mentionne très bien et en même temps, il allie très bien à la fois l'effort de Émile Bournouf pour obtenir le site de Delphes, avec d'ailleurs les accords commerciaux et économiques entre la Grèce et la France qui sont en train d'être négociés sur un certain nombre de grands travaux. Pour les Allemands, c'est pareil. Il ne faut pas oublier que l'archéologie, en même temps qu'on est une évolution en cette période, on passe de l'archéologie des dilettantes. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier qu'un des premiers à avoir, une première grande figure dont on parle, c'est Schliemann, l'Allemand, mm-hmm. qui est plutôt un industriel qui fait des fouilles de Troie puis des Mycènes tout mm-hmm. seul. Mais on passe maintenant à l'archéologie, en fait, la grande archéologie, des grandes fouilles professionnelles avec des états derrière. Pourquoi ? Parce que l'archéologie permet en même temps de mettre en avant un savoir-faire scientifique, mmh. Des évolutions techniques et scientifiques qui sont en train, en même temps des techniques industrielles. Mmh. On a besoin, par exemple, des wagonnets et des
Bien
rails
sûr.
Pour pouvoir faire de l'archéologie faite dans ces grandes fouilles. Et Ah, je crois. En fait, c'est un peu le, comme le salon du Bourget, mais archéologique, en fait, les grandes fouilles. C'est, oui. Ça permet de vendre de la technologie.
Amélie Perrier, ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est que on voit bien une sorte de, comment dire, ça n'est pas une sorte de malaise français, mais quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Après cette défaite de 1870 contre les Prussiens, l'école allemande, par sa rigueur en particulier épistémologique en matière d'archéologie et d'histoire, sert à la fois de modèle et de repoussoir. On voit bien, vous le disiez tout à l'heure, que dans ce contexte de concurrence franco-allemande de la fin du siècle, eh bien, les Français essayent d'avoir la même rigueur, de développer des bulletins de correspondance hellénique à l'école française d'Athènes, de centraliser les découvertes, de travailler pour pouvoir être à la hauteur, pourrait-on dire, de l'exigence intellectuelle des Allemands dans ces domaines.
Oui, c'est la période effectivement des grandes fouilles. Il y a une concurrence sur le terrain en termes de moyens, en termes de techniques. Et puis alors, je voudrais juste préciser que si le gouvernement grec accorde au gouvernement français, parce que ce sont des accords entre gouvernements, la concession du site de Delphes, c'est pour des raisons éminemment politiques, plus que scientifiques, parce qu'on est dans un contexte de relations tendues entre la Grèce et les Balkans et la Turquie. Et la Grèce a besoin de l'amitié française. Et les Allemands... avait exprimé l'envie de travailler à Delphes, mais en réalité, il y avait à ce moment-là des problèmes de financement des fouilles d'Olympie. Et en réalité, la demande concurrente qui avait été formulée, c'était de la part des Américains qui venaient de créer leur école et qui souhaitaient obtenir un grand site. Sauf que les Américains, à ce moment-là, dans le jeu diplomatique européen, ne sont pas très importants. Et donc, le gouvernement grec choisit d'accorder, pour des raisons politiques, le site à la France. Alors, ensuite, les moyens qui sont mis en œuvre sont effectivement à la hauteur des enjeux politiques qu'il y a derrière. D'abord, il y a une grosse subvention accordée par le gouvernement français à ces fouilles. Il faut commencer par l'expropriation donc des villageois et la reconstruction du site, ce qui ne se fait pas sans difficulté. Technique aussi bien que humaine. Et puis, il faut organiser le chantier. On crée une grande glissière pour évacuer les déblais. On fabrique 1800 mètres de voies ferrées dans le site, qui est un site montagneux, étagé, difficile d'accès. Il y a des tas de wagonnets qui sillonnent le site pour évacuer ces déblais. Il y a 220 ouvriers, enfin c'est monstrueux. Et puis des tas de spécialistes avec effectivement l'emploi de techniques nouvelles, nouvelles, récentes, comme la photographie par exemple.
Yorgos Archimandritis.
Je voudrais vous poser une question. Là on parle de la concurrence entre les écoles d'archéologie, on parle aussi politique, mais il y a aussi l'histoire donc qui est très tragique par période en Grèce à cette époque-là. Et je me demandais comment, je voudrais vous poser la question, comment l'école archéologique a fait face aux aléas de l'histoire de la Grèce, c'est-à-dire les guerres mondiales ou même la dictature des colonels. Vous, quel était votre... comment vous avez fait face à ces périodes-là?
Si on ne vient pas jusqu'à la période des colonels, peut-être tout de suite, mais en tout cas, c'est vrai que la fin du XIXe siècle, avec les grosses crises économiques de la Grèce, puis ensuite la Première Guerre mondiale, sont des périodes essentielles, Tassos Anastasiadis, dans ce rapport d'une école étrangère sur le sol grec dans ces moments-là.
Oui, en fait, au XIXe siècle, il n'y a pas eu tellement de problèmes, je dirais, par rapport à la présence, en fait, et notamment dans le contexte géopolitique. Effectivement, le contexte géopolitique joue plutôt par rapport à la concurrence franco-allemande. Mais cela change progressivement vers la fin du XIXe siècle, parce que le contexte géopolitique impacte même la manière dont vont travailler les écoles. Si je prends par exemple, on a parlé tout à l'heure de Zé, mais Victor Bérard va s'élancer vers le nord de la Grèce parce que on est en fait en plein période période de la question d'Orient, donc d'une certaine manière du partage qui s'annonce de l'Empire ottoman entre à la fois grandes puissances impériales, mais surtout aussi des États locaux dans le sud-est européen, dans les Balkans. Et les gens, en fait, aussi de l'école commencent à s'intéresser à ces nouveaux contextes. Et ce n'est pas par hasard que l'école, par exemple, au début du XXe siècle, va commencer à faire des fouilles au nord de la Grèce.
À Philippe.
On va avoir Philippe en 1914, Thasos en 1911.
Vous voulez dire qu'on prévoit plus ou moins l'explosion de l'Empire ottoman et on se dit il n'est pas mauvais qu'une puissance comme la France prennent pied dans ces espaces géographiques de la Grèce du Nord, par exemple.
Oui, il y a deux aspects. Il y a effectivement cet aspect-là. On prévoit progressivement que la Grèce va prendre pied, ou prend déjà pied, en fait, sur une partie des Balkans, en fait, la Macédoine et la Thrace. Mm-hmm. Mais aussi, il y a une évolution qui était en train de s'opérer dans l'Empire ottoman. Il ne faut pas oublier, puisqu'on fait du cadre institutionnel et réglementaire sur la question des fouilles, en fait, et des découvertes archéologiques. La Grèce était un pays qui avait une loi archéologique très tôt, en 1834. Qui était un cadre réglementaire d'ailleurs assez moderne et très très strict par rapport à ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on trouvait. L'Empire ottoman avait un cadre réglementaire beaucoup moins strict durant la première partie du XIXe siècle. C'est uniquement vers la fin du XIXe siècle commence à se développer aussi une loi ottomane sur les antiquités et aussi en fait un intérêt pour les antiquités grecques et romaines. Et du coup, les écoles étrangères commencent justement à s'intéresser plus aussi dans ce qui se passe dans l'Empire ottoman et à trouver des partenaires.
Et alors évidemment, la Première Guerre mondiale arrive et vous en êtes un spécialiste, Tassos Anastasiadis. Vous êtes en train de préparer d'ailleurs des manifestations pour l'automne prochain à l'école française d'Athènes autour de ces questions-là, parce que juin 1917, c'est le général Sarraï qui obtient la démission du roi Constantin en faveur de son fils. C'est la fermeture pendant la période entre décembre 1916 et juin 1917, la fermeture de l'école française qui recommence à fonctionner en juin 17. Et c'est un énorme moment où il y a aussi les Athéniens, là, donc des élèves de l'école française d'Athènes, qui vont participer à la création de nouveaux chantiers de fouilles dans cet espace qui est le front d'Orient, donc à la frontière entre Macédoine, Bulgarie, Roumanie et Grèce.
Oui, en fait, c'est un moment charnière pour l'école, moment essentiel pour l'école. Déjà parce que, effectivement, dans ces 170 ans d'histoire, c'est le seul moment où elle a fermé ses portes. Oui. Entre donc le décembre 1916, comme vous avez dit, et juin 1917, c'est-à-dire suite à ce qu'on appelle les événements de novembre ou de décembre, selon le calendrier qu'on utilise, de 1916, où des troupes françaises avaient débarqué déjà à Athènes pour essayer de forcer la main au roi Constantin. Il y a eu en fait des affrontements au sein de la ville, même bombardement de la ville par la flotte française, et du coup l'école ferme, comme en fait beaucoup d'autres institutions des proches des pays de l'entente ou devenant des pays de l'entente. Alors l'école joue effectivement un double rôle dans ce contexte là de la Première Guerre mondiale, en fait énorme partie les membres de l'école. Il y a un développement des travaux archéologiques dans une nouvelle dans un nouveau territoire, ce sont les développements du service archéologique de l'armée d'Orient. Je rappelle que l'armée d'Orient, c'est l'armée qui est née en 1915 d'abord des restes du corps expéditionnaire des Dardanelles et qui s'est retranchée dans la ville de Thessalonique, dans une Grèce qui était à l'époque neutre par ailleurs, et puis en fait crée un nouveau front, le front d'Orient, dans cet endroit-là. Un front assez intéressant que nous étudions dans un grand programme de l'école, en effet, puisqu'il faut se dire qu'il y a on a 250 000 soldats parfois qui vivent dans une ville de 170 000 habitants.
Avec incroyable.
Tout ce que cela peut dire. Et en plus de soldats vraiment venant d'un peu partout dans le monde, puisque en fait les armées d'Orient des Alliés sont les armées les plus où la présence des troupes coloniales est la plus forte dans la Première Guerre mondiale. Maintenant, donc il y a un service archéologique de l'armée d'Orient qui est fondé en réalité par des Athéniens, donc des membres de l'école française d'Athènes, qui servent dans ce service. Mais les Athéniens, donc ses membres, jouent aussi un autre rôle. Pour ceux qui aiment bien Indiana Jones, il ne faut pas oublier qu'effectivement, les archéologues sont aussi un peu...
Ils sont des agents de renseignement, parfois.
Ah ben, c'est des agents parfaits. Un archéologue est entraîné pour pouvoir voir ce que les autres ne voient pas. Et d'essayer de l'exhumer, justement.
Et sous prétexte de parler du passé, parle parfois du présent.
Ah, tout à fait. On a dit que de toute façon, ça se faisait au 19e siècle, beaucoup par des gens déjà qui étaient venus au 19e siècle. Mais en pleine Première Guerre mondiale, un grand nombre des membres de l'école comme d'ailleurs ça se passe avec les archéologues des autres nationalités, vont jouer un rôle dans les renseignements. Un ancien de l'école, un ancien membre de l'école qui par la suite d'ailleurs va la diriger, il est entre autres le chef du deuxième bureau de l'armée d'Orient à Salonique. C'est tout à fait normal. On voit très naturellement à l'époque, la science et les savoirs scientifiques au service, de la nation, entre guillemets. Voilà.
Et donc, cette histoire se poursuit tout au long du XXe siècle. On n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin avec vous deux, Amélie Perrier, et avec vous, Tassos Anastasiadis. Il faut donc mentionner pour vous, Tassos Anastasiadis, des manifestations qui ont lieu à la rentrée. Qu'est-ce que vous organisez avec l'École française d'Athènes, justement, sur cette période un peu troublée de la Première Guerre mondiale ?
Mais donc, à partir du 15 septembre 2017, et pendant 2 mois, nous aurons une grande exposition photographique qui aura lieu au musée Benaki d'Athènes, dans un premier temps, puis probablement
très grand musée d'Athènes.
Va être itinérante par la suite. C'est une exposition photographique qui s'appelle Athènes 1917, le regard de l'armée d'Orient. Nous utilisons les fonds d'archives photographiques à la fois de l'établissement de communication et production du visuel de la Défense et de la médiateur de l'architecture et du patrimoine à Paris. Et grâce au soutien de la mission du centenaire, nous avons sélectionné un corpus de photos où nous voyons comment en 1917, au moment donc justement où l'armée d'Orient arrive à Athènes, les photographes de l'armée d'Orient découvrent une ville. Et c'est très intéressant, c'est un aspect très intéressant. Mm-hmm. Ce sont des gens qui étaient habitués pendant 2 ans à être à Salonique depuis 1915, une ville qui est très très différente d'Athènes, avec un passé ottoman beaucoup plus important, avec un passé byzantin beaucoup plus présent et aussi avec une forte présence juive dans la ville. Mm-hmm. Et tout d'un coup arrivent dans cette Athènes classique de leur rêve. Et un peu comme les archéologues dont nous avons parlé, ces photographes, donc ils sont saisis du contraste entre Athènes et Thessalonique, mais aussi de cette ville d'Athènes moderne qu'ils découvrent comme étant une ville où l'antique et le moderne cohabitent. Et nous essayons de le mettre en avant.
Ça sera donc au musée Benaki à Athènes. Donc à partir de la mi-septembre prochain, on continue notre série d'émissions donc consacrée à cette redécouverte de la Grèce et en particulier avec vous demain. Avec un documentaire que vous avez conçu, Yorgos Archimandritis, avec Séverine Cassard, notre réalisatrice. C'est un documentaire sur les festivals d'Athènes et d'Épidaure.
Tout à fait. C'est donc un documentaire qui porte sur l'histoire de la naissance.
On n'est plus après la Première Guerre mondiale, on est après la Seconde Guerre mondiale.
Exactement.
Après la guerre civile qui a ensanglanté la Grèce et divisé ce pays pendant très longtemps. Eh bien, la Grèce du milieu des années 50 se dit qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se faire reconnaître dans une Grèce qui, d'une certaine façon, est très appauvrie.
Exactement, et c'était le facteur économique était très important pour la Grèce à cette époque-là, et c'était une des raisons pour lesquelles le festival d'Épidaure et le festival d'Athènes ont été créés, pour des raisons touristiques aussi, pas seulement pour des raisons artistiques, bien sûr. Et donc, on va suivre toute cette procédure de création, de naissance du festival dans ce contexte historique particulièrement défavorable pour la Grèce, et on va suivre donc son évolution jusqu'à la dictature.
La première fois que Nouaïef s'est présenté sur scène ici, c'était avec le Ballet Royal de Londres et c'était le Corsaire.
C'était un an après sa fuite de l'Union soviétique,
c'était 1963.
Exactement, oui.
Et la deuxième fois, c'était 3 ans plus tard, c'était une période politiquement très tumultueuse. Il y avait des manifestations en ville, mais le théâtre était plein, plein, plein. C'était le Ballet Royal de Londres avec Margot Fonteyn et Nouraïev. Alors, on a vu des députés entrer, Robert Kennedy et sa femme Ethel Kennedy entraient. Il y avait des applaudissements. Et derrière, c'était le roi et la reine. Et après l'entrée du roi, personne ne peut pas entrer par l'entrée principale. Les lumières s'abaissent. Dans quelques moments, le spectacle va commencer. Et soudain, il y a des applaudissements qui commencent par là. Ça grandit. Tout le monde se met debout et commence à applaudir. Les lumières s'allument de nouveau. C'était Maria Callas qui entrait voir le spectacle. Et Robert Kennedy est allé la saluer. Après, on lui a présenté les rois. Et à la fin du spectacle, j'ai été dans les coulisses et j'ai dit à Nouraïev, j'ai lu quelque part que tu admires la Callas. Si c'est vrai, j'ai une chose pirate d'elle. C'était la première fois qu'elle avait chanté ici à l'Aerodaticus, en 1957. Mais si ce n'est pas vrai, alors je le garde pour moi parce que je crois qu'elle est plus importante que vous tous. Et il m'a répondu, non, je l'admire. Et pour moi, il n'y a plus question de technique avec cette femme. Tout simplement, elle communique. J'espère seulement que je danse mieux la prochaine fois qu'elle est là.
Documentaire donc demain dans la Fabrique de l'Histoire consacré à la naissance de ces festivals d'Athènes et d'Épidaure dans les années 50 et à leur importance en termes artistiques, en particulier documentaire signé Yorgos Archimandritis et Séverine Cassard. Mercredi, nous reviendrons sur ce dont nous avons parlé aujourd'hui à propos des écoles françaises, sur ce goût français mais également européen pour la Grèce au XVIIIe siècle avec nos invités. Merci à nos confrères de l'ERT, la radio nationale grecque, qui ont accueilli dans leur studio nos deux invités, Amélie Perrier et Tassos Anastasiadis, donc qui sont tous les deux membres de l'école française d'Athènes et qui dirigent des études antiques, byzantines et contemporaines. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, Francesca Fossati, Élise Leheu, et nous a accompagnés à la technique, et Séverine Cassard à la réalisation. Et puis, notez que dans le nouveau numéro de Papier, c'est donc la revue Papier de France Culture, le numéro 21 que vous trouvez en kiosque depuis la semaine dernière, eh bien, il y a un grand dossier sur le vrai, le faux et le presque vrai, un grand dossier autour des fake news, d'une certaine façon, les faits alternatifs, mais aussi un grand entretien que vous avez peut-être pu entendre sur notre antenne il y a quelques temps entre Jean-Christophe Ruffin et Nikos Aliagas à propos de la Grèce de Nikos Aliagas.